Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute de Choix Radio X, le Spacecast qui vous accompagne jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée du chum Max Lacasse qui va prendre vos appels là, dans le Last Call pour une petite dernière cette semaine.
Oui, monsieur.
Hey, j'avais hâte à cette entrevue-là parce que c'est un peuple et une culture qui me fascinent. Puis on vient souvent avec ça, hein, des conversations avec des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont autre chose à raconter. C'est toujours fascinant. C'est toujours...
Absolument.
Si tu veux être confronté à des différences culturelles, des façons différentes de voir la vie, de vivre le quotidien, c'est la meilleure façon de jaser avec du monde qui ont vécu autre chose, c'est qu'ils viennent d'ailleurs carrément.
Bien, ça nous donne des clés de compréhension de comment ça se passe ailleurs pour au final mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Hein, ça se passe pas pareil partout.
Ah, exact, c'est ça. Et de voir que... tu sais, en fait, je vais être franc avec toi, là, moi, je pense que 80% des affaires que j'aime viennent du Japon. T'sais, 80% des affaires que je regarde d'une journée comme art, comme divertissement, ça vient du Japon. Fait que j'ai un biais favorable. Je vais le dire comme ça, là. Et je suis très, très, très content parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a de ça quelques années. Je me disais, hey, ça serait le fun de le recevoir en studio. Il s'appelle Ryunosuke Yamazumi et il est en studio avec nous. Salut, Ryunosuke.
Oui, mon Dieu, ça va bien. Merci pour l'invitation.
Ça va bien?
Oui, super.
Excellent. Je suis content de te voir. Ça fait quand même quelques années.
Moi aussi, oui. Depuis la pandémie.
Oui, c'est ça. Hein?
Ouais, ouais.
T'es arrivé au Québec quand? Hein?
Je suis arrivé ici en 2006.
2006?
Parce que je suis artiste de cirque. Donc, mm-hmm. Je suis venu ici pour faire des études à l'École de cirque de Québec, justement.
OK. Et qu'est-ce qui... pourquoi le Québec?
Mais en fait, justement, je voulais devenir un artiste professionnel de cirque et j'étais vraiment inspiré par le spectacle de Cirque du Soleil.
OK.
Donc, non seulement Montréal, mais toute la province de Québec était bien réputée et surtout pour l'éducation pour devenir artiste de cirque.
Ah, oh, ouais.
J'avais le choix d'aller à Montréal et Québec et j'ai été accepté dans l'École de cirque de Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici.
Y avait-tu d'autres choix, d'autres pays que le Canada ou le Québec dans tes visios, c'était vraiment juste ici?
La France, ils sont vraiment réputés pour faire le spectacle, mettons, le cirque contemporain.
Ouais.
La France était plus spécialisée pour une création de groupe. Donc, quand on fait le spectacle ensemble avec d'autres artistes, à l'époque, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant, mais il était très fort. Tandis qu'ici, c'était vraiment réputé pour concevoir un numéro de cirque. C'est-à-dire okay. que tu rentres à l'école... Pour être certain de sortir, pour graduer l'école, il faut sortir avec un numéro de cirque.
OK.
OK, carrément. OK.
Ouais.
Ah ouais. Et est-ce que quand tu décides de partir du Japon pour le Québec, est-ce que tu as déjà une base de français?
À l'université du Japon, j'ai pris quelques cours. En fait, j'ai quand même pris deux ans de cours de français, mais quand je suis venu ici, je comprenais à peu près 1,2%.
Ah ouais, OK.
Puis au Japon, de base, est-ce que vous connaissez toutes les deux alphabets? Est-ce que vous connaissez déjà l'alphabet normal ou...
C'est normal.
En fait, il faut être précis. Quand on parle d'alphabet, quel est l'alphabet?
L'alphabet, les
notre alphabet à nous, là.
La manière d'écrire.
Ouais, bien sûr. Si c'est l'alphabet, oui.
Ouais. Et vous, est-ce que au Japon, de base, tu connaissais déjà l'alphabet normal ou c'était juste les...
Déjà,
signes japonais.
En fait, déjà au Japon, on utilise également l'alphabet latin.
OK.
Ah oui?
Par exemple, si on écrit CD, on n'écrit pas CD avec les alphabets japonais. On écrit juste avec C plus D.
OK.
Ah, tout simplement.
Et également, à partir de 12 ans, 13 ans, on commence à apprendre on prend le cours d'anglais à l'école. Donc,
OK, ouais.
Puis ici, on utilise juste 26 caractères. Mais au Japon, on utilise 46 alphabets japonais, puis un autre sort d'alphabet 46, puis on utilise des idéogrammes. Un idéogramme reflète le sens de la phrase, sens d'un mot, mais non le son, en fait. Puis des idéogrammes, on apprend 2100 caractères. Donc pour moi, ajouter juste 26 caractères...
pas trop stressant. Voilà.
Pourtant, ici, il y en a qui sont même pas capables d'écrire oignon correctement.
Oui, ah oui, ah, c'est vrai, ça. Mais quand tu dis que ça va déterminer le sens de la phrase, tu veux mettre un sens plus triste, interrogatif, ça vient au début?
Non, ça, c'est au niveau de structure de japonais.
Hein? Oui.
Ça, c'est un autre sujet. En japonais, on place le verbe à la fin de la phrase. Donc, à la place de dire, je mangerai la poutine à 8 heures avec mon frère. En japonais, on dit, je, avec mon frère, la poutine à 8 heures, manger.
OK, donc, comme, ça, comme Yoda un peu.
Yoda, je pense que c'est comme inspiré par la manière dont on parle aussi.
OK. Ah. OK. Ça a été quoi le premier choc culturel quand tu es arrivé en 2006 au Québec? C'est quoi la première affaire? Wow, OK, là, je suis loin de chez nous.
Il fait fret.
Ah ouais, c'est vrai, OK.
Ouais. Ben, le froid, c'est quand même intense. Puis là, on va parler de. Ben, ça va être long la soirée, mais c'est pas grave. Hein. Je suis content de parler. La première chose que j'ai constatée, c'est la différence de mentalité. Ces informations-là peut-être intéressantes pour ceux qui veulent voyager au Japon, justement. Oui. En fait, ben, c'est comme le concept que j'ai finalement réalisé. Puis maintenant, je suis une des seules personnes qui est capable d'expliquer. Okay?
Oui.
Donc là, il y a une différence de gentillesse. Et au Japon, il y a un mot qui ressemble à ça. On dit « omoyari ». Le mot le plus proche, ça serait l'empathie.
Okay.
Ici, empathie. Okay. Donc, c'est quoi la différence entre gentillesse et empathie? Donc, au Japon, depuis le jeune âge, on est bien éduqué. OK, il faut toujours utiliser votre empathie chaque fois que vous parlez avec les amis. Okay? Donc, empathie, c'est une capacité de pouvoir lire ce que les autres pensent.
Mm-hmm.
Okay? Non seulement ce qu'ils parlent, mais peut-être en regardant ses yeux, il faut capter ce que les autres pensent.
Capter sa possible tristesse, sa joie.
Exactement. Mm-hmm. Donc, la meilleure différence, c'est que, mettons, il y a quelqu'un qui est aveugle, qui est en train de traverser la rue, qui est l'intersection. Donc, quelqu'un qui est gentil, c'est dangereux. Donc là, il prend son bras, puis il va marcher avec la personne aveugle. Ça, c'est quelqu'un de gentil. Ça, il y en a beaucoup au Québec.
Ouais.
Par contre, quelqu'un qui a empathie, parce que si tu prends le bras de la personne puis marcher ensemble, mais pourquoi le mec, le gars à bord, il a pris la peine de prendre la canne puis sortir puis marcher tout seul? Ça veut dire qu'il veut être autonome. Il veut pratiquer, mais il veut maîtriser sa canne pour pouvoir marcher tout seul.
Je comprends.
Pour pouvoir être autonome. Si tu prends la main puis le bras de la personne, c'est comme si, t'es pas capable, t'es handicapé, t'es pas capable d'être autonome. Donc là, la personne qui a la vraie empathie, il marche juste derrière lui sans se faire rendre compte. Mais puisqu'il marche juste derrière lui, si jamais il y a un petit accident, il est capable de réagir.
D'intervenir, mais il n'empêche pas son sentiment d'autonomie.
Exactement. Oh. Donc moi, je suis né dans le pays, s'appelle le Japon, où il y a beaucoup d'empathie. Tandis que ici, j'ai vu beaucoup de gens qui sont gentils, mais ce genre d'empathie, c'est pas très développé.
OK.
Mais autant que Japon. Donc, exemple, moi, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, puis il m'a dit, hey, je t'ai pas d'amis, ce dimanche, on a un petit party, c'est mon anniversaire, donc t'es bienvenue. Okay? Donc là, j'y vais. Mais là, je parlais pas très bien français, même mon anglais était tout croche.
OK.
Donc là, mais une fois arrivé là-bas, la seule personne que je connaissais, c'était lui, mon ami.
Mm-hmm.
Mais lui, il est entre d'autres amis. T'sais? Donc là, au bout de 5 minutes, c'est comme, mais je connais personne. Puis qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais jouer avec mon cellulaire?
Ah, oui.
Donc au Japon, c'est comme, il faut être capable de, mettons, si tu invites la personne qui ne parle même pas la langue, etc., il faut être prêt à prendre soin d'elle.
La prendre sous ton aile.
Donc ça, c'est la capacité d'empathie.
Est-ce que on dit souvent que les Québécois sont un peuple chaleureux. Est-ce que tu ressens ça?
Vraiment.
Oui?
En fait, c'est vraiment facile de faire des amis ici. Par exemple, je parle avec... J'espère qu'elle n'écoute pas, mais mon premier ex, ma première blonde ici, c'était quelqu'un qui travaille à IGA.
Hein, OK.
Caissier, puis on a parlé, puis c'est ça, on a commencé à sortir ensemble.
Ah ouais, comme ça. Mais est-ce que ça, c'est un scénario complètement impossible au Japon?
C'est... on ne va pas sympathiser avec les travailleurs qui sont en train de travailler.
OK. Okay.
Ben, ici, ben, même... je peux parler avec quelqu'un, une madame qui est dans la rue, puis ça fait pas sketch, ça fait pas louche.
Mm-hmm.
Tandis qu'au Japon, ben, tout le monde, ben, surtout à Tokyo, c'est comme une grande ville. Ben, si je parle avec la personne dans la rue, c'est comme vous êtes qui? Est-ce que vous voulez vendre votre produit bizarre?
Ah oui, il y a une espèce de suspicion de l'autre.
Mais hein? Oui, c'est ça.
Ah,
on
ne
fait pas confiance tout de suite aux autres quand même.
Pourquoi? Hein? Est-ce que c'est en lien avec la pandémie? C'était comme ça avant? C'est culturel?
Non, c'est culturel, ouais.
Pourquoi?
Ben, c'est la différence de mentalité. Ça va prendre certain temps avant de faire confiance aux autres personnes. Parce que, justement, on est trop nombreux. On habite dans le petit île, c'est plus concentré. Donc, dans cette situation-là, il peut y avoir facilement des problèmes.
Mmh.
Juste parce que c'est ce peuple. Donc, par exemple, même avec ton voisin, c'est comme, ah non, tu fais trop de bruit, mais ici, mais je t'habite à, je sais pas, Saint-Brigitte de Laval, ton voisin habite à 200 mètres plus loin, mais à Tokyo, c'est même pas dans le... à côté, c'est un étage en haut, puis à droite, puis à gauche, puis en bas aussi. Donc, souvent, il se méfie pour protéger son propre endroit. C'est pas juste à Tokyo ou à une grosse ville, mais... c'est parce que quand votre espace, ton espace est limité, on essaie d'abord de protéger cet endroit, cet espace. Puis, quand on a beaucoup d'espace comme ici, au Québec, là, on est capable d'inviter, donner, partager. Tandis que, surtout à Tokyo, ben, d'abord, on se protège. Donc, c'est pas juste la mentalité japonaise, mais c'est plus comme... C'est arrivé juste à cause du fait que le Japon... C'est trop peuplé.
Okay.
Il y a beaucoup de gens.
On parle souvent du Japon comme étant un endroit où les gens sont particulièrement polis. Est-ce qu'il y a une grosse différence de politesse entre les Japonais et les Québécois?
En fait, fais attention, mais les Québécois sont polis quand même. Tu sais, ben, on respecte les vieilles personnes en général. C'est ce que, même on apprend ça à l'école. En fait, il faut faire attention. Quand ça, c'est notre... Justement, le autre sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est que la politesse, souvent, il faut juste penser, est-ce que c'est avec les amis ou est-ce que c'est dans un restaurant? C'est déjà complètement différent.
OK.
Parce que une autre différence culturelle qui va toucher dans ce sujet-là, c'est qu'au Québec ou même ailleurs au Japon, mettons, en Amérique, je ne sais pas trop, mais même en Europe, ce qui est important, c'est l'individuel. Donc, l'individu est plus important que la société. Mais au Japon, c'est la société dans laquelle on respecte la société. Ça veut dire que... vous connaissez le mot karoshi?
Non.
OK. Karoshi, c'est un mot spécifique, c'est un verbe qui existe dans la langue japonaise qui veut dire mourir à cause de trop de travail.
OK. Okay.
Donc là, karoshi, c'est quand même considéré comme une belle histoire. Mais c'est terrible parce que là, ton boss a commencé à travailler super fort. Puis avec le stress, t'es mort.
C'est ça, ben, nous, le mot, c'est burn-out, non?
Ouais, burn-out, mais tu vas plus loin que ça.
Burn-out. Okay.
Après le burn-out, c'est ça.
OK.
Ouais, c'est burn-down, quasiment.
Ouais.
Anyway, tandis que, ben, t'as vraiment contribué à la société en sacrifiant toi-même. T'sais. Oh, ça, c'est une belle histoire, mais en fait, au Japon, c'est comme ça.
Okay.
Donc, au Japon, les autres, le bonheur d'autres personnes, peut être plus important qu'individuel. C'est pour ça, quand on voyage au Japon, ben, même au gars de dépendant, il est super gentil. Est-ce que vous voulez besoin? Est-ce que vous voulez avoir un sac? Est-ce que c'est correct? Si vous voulez sortir, c'est par là, etc. On fait tout ce qu'il faut.
Okay.
Donc, c'est ça qu'on pense que le mot politesse est bien. Mais selon moi, mettons, je te fais un ami, tu sais, je sais pas si... Je pense qu'au niveau de la politesse, ça doit être à peu près la même chose. Mais quand même, on respecte l'endroit, puis on a... Mais ça vient de... Ce qui est important, c'est le penser qu'on essaie de ne pas déranger, parce que individuel, c'est moins important que la société.
Okay.
Donc, si tu fais quelque chose, mais tu peux déranger les autres personnes, ou la société, ou le groupe, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas jeter de canettes par terre, parce que là, ça va déranger la société.
Je comprends.
On essaie de ne pas parler à la personne qui est occupée pendant peut-être une heure, parce que ça peut déranger la personne. Donc, okay. Quand on parle de la politesse, je pense que ça vient de cette mentalité de comme on respecte les autres versus on fait ce qu'on veut.
OK. Est-ce que j'ai lu souvent, puis je ne sais pas à quel point c'est une exagération, une épidémie de solitude au Japon. On dit que les gens se sentent seuls, ont de la misère justement à se faire des amis, comme on dit. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as le souvenir, ou, parce que j'imagine que tu as encore plein d'amis au Japon, de la famille, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose dont on te parle, ça, qu'il y a une épidémie de solitude, que les relations hommes-femmes, c'est difficile? On le sait, le Japon, d'un point de vue démographique, ça fait pas beaucoup d'enfants comme nous. C'est un problème, ça. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça?
Moi, j'étais célibataire pendant longtemps, hein, donc je suis quasiment un spécialiste.
Oh, yeah.
C'est sûr que c'est... en fait, les gens, ils sont... Donc, justement, à cause de cette mentalité de « OK, on essaie de ne pas trop déranger, etc. » Donc là, on a toujours peur de déranger la personne si on demande un petit date, par exemple. Donc, les gens sont plus gênés, en fait.
Mais si tu... brise ce code-là comme gars, comme garçon, et tu vas voir une japonaise, est-ce que tu vas avoir l'air d'un gars super mal élevé ou bien, hey, il a des couilles, lui, il a brisé le code pour venir me voir? Est-ce que ça pourrait être pris comme wow, il est game, lui?
Si tu respectes le code de ne pas déranger la personne, mais t'es sympathique, ça va.
Okay.
Mais si ça devient too much, comme quelqu'un qui ne comprend pas le feeling d'autres personnes, là, ça devient dérangeant.
Okay.
Donc là, ben, ça, tu vas être dans la liste noire.
Okay. Ah ouais, OK. Ouais. Okay. C'est quoi les applications de rencontre qui fonctionnent beaucoup au Japon?
Ben, en fait, quand je suis parti...
Ah, il n'y avait
Japon,
pas? Oui, ouais, c'est ça.
Ans,
c'était MySpace.
On n'avait même pas le...
MySpace, puis Do You Look Good?
Je ne sais pas, ça s'appelle discothèque, peut-être.
Ah oui, OK, ouais, c'est ça. Le travail au Japon, parce que ici, au Québec, là, le travail, c'est sûr que tout le monde a ses horaires, là, mais règle générale, en Occident, mettons, là, travail 9 à 5, t'sais, métro, boulot, dodo. Est-ce que le Japon s'organise différemment? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où est-ce qu'il y a une pause d'après-midi, mais finissent de travailler plus tard? C'est quoi le modèle sociétal au niveau du travail?
Ah, c'est pire que ça.
C'est pire que ça?
En fait, même si tu travailles dans le travail de 9 à 5, des fois, mais souvent, il y a des compagnies... justement, c'est toujours lié avec l'histoire de... OK, la compagnie est plus importante que l'individuel.
Okay.
Donc, souvent, c'est important de respecter les autres personnes qui sont, qui est rentrée dans la compagnie avant peu.
Okay.
Donc, si cette personne est rentrée à 8 heures, il faut être là avant lui. Parce que sinon, c'est pas respectueux. C'est comme si t'es jeune, mais là, t'arrives plus tard que la personne qui est supérieure. Donc, ça ne marche pas. Donc là, il n'y a pas de règlement, mais t'es obligé d'entrer à 7 heures du matin.
OK. Okay.
Puis, c'est le même règlement, il y a beaucoup d'overtime. Donc, même si on est censé de finir à 5 heures, ben, si ton supérieur travaille jusqu'à 9 heures, tu ne peux pas quitter avant 9 heures.
Et ce n'est pas juste une question monétaire, c'est une question de fierté, c'est une question de code non écrit, je comprends bien.
Exactement. Mais on peut dire que c'est le power trip. Heureusement, c'est en train de changer. Même à ça, il y a toujours cette mentalité qui est incrustée dans la société du Japon.
Ah ouais, OK. Mm-hmm. Okay. C'est quoi la religion prédominante?
Il y en a trois. Donc, bouddhisme, puis shintoïsme et catholique. Mais en fait, c'est pas catholique, mais c'est catholique ou protestant, mais anyway, c'est le... Ouais,
c'est est-ce que vous êtes, tu sais, au Québec, là, je sais pas si tu as suivi ça, mais on est dans une démarche assez laïque, là, de retirer tout ce qui est signe ostentatoire. Est-ce qu'au Japon, vous êtes comme ça dans l'espace public? Où
normalement, oui.
Oui, OK. Dans les couverts.
Là, c'est un sujet chaud, genre.
Ah ouais?
Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, si tu es musulman, on doit quand même faire le priage, mais il y a beaucoup de Japonais qui ne sont pas très à l'aise qu'ils commencent à prier dans la rue comme ça.
C'est les mêmes combats qu'ici.
C'est les mêmes, c'est ça.
C'est les mêmes, ouais.
C'est les mêmes affaires. OK. Mais est-ce qu'il y a une des trois religions qui est privilégiée ou culturellement plus ancrée que les autres?
En fait, le bouddhisme et Puis le shintoïsme, c'est très quand même... ouais. Il y a beaucoup d'événements qui est lié avec beaucoup de congés fériés, une journée fériée, qui est basée par ces deux religions. Mais fais attention, bouddhisme, c'est pas vraiment religion parce qu'il n'y a pas d'exclusivité. Mm-hmm. Shintoïsme non plus, mais moi je connais pas trop, mais c'est pas comme un musulman ou le
qui dévoue.
Comme exclusif complètement.
Okay.
Catholique, protestant, c'est quand même exclusif, je crois. Donc tu peux être à la fois bouddhiste, mais tu peux pratiquer shintoïsme en même temps, okay. Par exemple.
Oh. Et, Oui. Tu parlais de sujets chauds. Moi, j'aime bien ça, les sujets chauds. En fait, je suis curieux de t'entendre sur la nouvelle première ministre, Mme Takaichi.
Ouais.
Parle-moi d'elle un peu, ta perception d'elle, puis pourquoi est-ce que c'est elle qui a été élue, une femme assez conservatrice qu'on comprend, qui a lancé un pas pire Kamehameha aussi à Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu aussi drummer sur du Iron Maiden. Cette madame-là a l'air malade dans le bon sens. Parle-moi de elle, de comment elle est vue au Japon.
Mais en fait, moi, j'ai pas vraiment de... politique,
okay.
Personnelle, mais je peux parler d'en général. Donc, en général, elle est bien reçue,
ouais,
par les gens. Mais juste parce qu'elle est sympathique, puis on a l'impression qu'elle prend soin de ça. Mais surtout, un débat qui était chaud, c'est que même dans la politique japonaise, il y a beaucoup de politiques, mettons, partis politiques, qui sont pro-Chine.
Pro-Corée,
etc. Puis donc, toujours, il y a une histoire de, OK, ben, si tu regardes... destination de l'argent, mais ça va dans l'organisme qui promouvoit
le gouvernement chinois. Le
gouvernement chinois, le parti communiste, etc.
Ah ouais, ok, donc, même au Japon.
C'est ça. Donc, elle est quand même assez plus stricte que l'autre avant.
Ok, ouais. Ok. Ah,
et
c'est intéressant.
Sur les médias sociaux, on prend toujours son côté sympathique. T'sais.
Ouais. Mm-hmm. J'ai déjà entendu dire par beaucoup de monde puis des gens qui sont allés au Japon qu'il y avait des fois peut-être un certain retentissement par rapport aux touristes, aux gens qui viennent d'ailleurs.
Ouais.
Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est du racisme envers les non-japonais, des bars où tu peux pas rentrer si tu viens pas du Japon. C'est-tu ancré dans la culture? Pourquoi les Japonais pensent comme ça?
Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec les touristes. Parce que
tu
sais, les Japonais, il comprend le code. Okay, il ne faut pas trop déranger. Puis, tandis que nous, on va là-bas, mais on ne connaît pas ce code-là. Par contre, les Québécois sont généralement très, très bienvenus parce qu'on est tous polis.
Okay.
Mais c'est pas... sans être raciste, c'est pas tous les pays qui ont la même éducation.
Mm-hmm. Ouais. Donc, on a une connaissance à nous qui nous a parlé, qui est allé dans un restaurant, puis il essaie de lui expliquer, puis à un moment donné, il a juste écrit sur une feuille, c'était marqué « No foreigner in this restaurant ».
Nous, moi, je suis allé au Japon justement avec ma famille, ma femme, puis mes deux belles-filles. Et j'ai vu un restaurant à côté de Kyoto. C'était marqué à la porte « closed », comme fermé. Mm-hmm. Mais en japonais, c'était marqué « ouvert ».
OK, j'adore ça. Je suis obligé de dire que j'adore ça comme stratégie.
C'est quand même très bon.
C'est vraiment très, très bon.
Donc là, on est entré parce que moi, je suis japonais. Mais en fait, je comprends c'est pas juste être xénophobe, mais là, j'étais à un restaurant, puis il y a comme beaucoup d'étrangers qui sont entrés dans le restaurant, qui ont fait le party avec gros bruit. À cause de ça, comme tous les clients qui sont gentils, ils sont partis. J'étais en ce genre d'expérience.
Le manque de savoir-vivre des touristes, dans le fond, vous a poussé.
Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on peut pas mettre tous les touristes, tous les gens internationaux dans le même panier, mais il y a plus de risques.
Non, mais même nous autres, on le voit des fois, mettons, on va dans un resort, on va à Cuba, on va tout le temps dire qu'il y avait une gang de Russes qui savaient pas vivre, ou il y avait une gang de ci qui savaient pas vivre. Il y a souvent des gens de d'autres pays, puis au Québec aussi, comme on dit, on est un peu poli, là, fait que je comprends ce point-là, c'est très bon. Est-ce que c'est tabou parler politique? Au Japon?
Non.
Non?
Il y en parle beaucoup.
Ah oui, OK.
C'est juste, je suis trop naïve.
Est-ce qu'il y a médiatiquement, là, est-ce qu'il y a des stations de radio comme nous où il y a des débats d'opinion?
Ah oui, tout le temps, ouais.
Ah oui, OK. Mm-hmm. Ça se crie après à TV comme en France, puis tout ça?
C'est quand je vois mes amis, j'essaie de ne pas trop parler de politique parce que là, ça va être chaud le débat.
Ah ouais? OK, ça fait chauffer.
Mais c'est pas tout le monde, mais quand même.
Quand vous êtes à l'école plus jeune...
puis qu'on arrive dans les cours d'histoire, il y a bien un moment donné où il faut parler de ce qui s'est passé en 1945 au Japon, à Hiroshima, à Nagasaki. Comment ça vous est enseigné, cette période-là de l'histoire?
Ah, ça, c'est vraiment important comme sujet. Parce que jusqu'à très récent, on m'a enseigné que le Japon, c'est un maudit Christ de mauvais pays. C'était comme un méchant total. C'est devenu un complètement nationaliste, etc., etc. Donc là, c'est comme si... parce qu'après la guerre, c'était le contrôle américain qui a pris l'éducation. Okay. Et ils ont juste, c'est eux autres qui ont décidé la direction de enseignement. Okay. Puis dernièrement, le mouvement, c'est que, enfin là, on n'était pas si pire.
Ouais, c'est juste, okay, aussi, on a perdu. Là,
ouais. Mais pourtant, mettons, il n'y a aucune. Mais tu sais, j'ai des amis ukrainiens qui osent même pas parler avec les Russes maintenant, avec ce qui se passe.
Ouais.
Mais avec, mettons, ma génération et plus, il n'y a personne qui déteste les Américains.
C'est ça que j'allais te demander. Si, mettons, vos grands-parents, est-ce qu'ils ont une rancune envers les Américains?
Mais ils ont été enseignés que le Japon était un mauvais pays.
Donc, fait qu'ils sont comme frais après eux-mêmes.
Ah oui, il y a une espèce de... Ils se sont fait enseigner une espèce de détestation d'eux-mêmes.
C'est ça. Nous, on a perdu. Mais pour moi, c'est comme bombarder avec un gros bombe atomique puis tuer le civil. C'est comme si il y a deux pays qui jouent échec. Hein?
Hmm.
Puis à un moment donné, les Américains, ils ont décidé de casser directement la table au complet.
Ouais, ouais.
C'est comme, c'est pas dans le règlement. On est censé de juste tuer les soldats, mais ils ont comme bombardé deux villes. Puis non seulement on tue tout le monde, mais c'est comme si tu dis, ah non, tu peux plus habiter ici pendant longtemps parce que c'est infecté.
Ouais, c'est
comme,
ouais.
Ben, c'est quand même intense ce qu'ils ont fait.
Ah, puis vous avez été.
Pourtant, il y a personne qui déteste ça.
Non, c'est ça. Vous avez été démilitarisé longtemps aussi, là.
Exactement.
Parle-moi un peu de la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, avec leur despote à la tête du pays, Kim Jong-un, c'est quoi, une fois par mois, il envoie un missile au-dessus du Japon, il y a une alerte au Japon, cachez-vous dans un bunker, le missile, il tombe dans la mer du Japon, puis après ça, pas pire. Comment vous vivez avec ça là-bas, puis quelle est la perception que vous avez de la Corée du Nord?
Là, c'est devenu comme un... Pas encore.
Ah, tu renvoies encore!
Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est toujours la même histoire. Mais il veut juste quand même montrer que, OK, on est actif. Donc là, ben, c'est ça. Vous devez comme faire attention à nous, etc. Donc,
OK, fait qu'il n'est pas perçu comme une vraie menace sérieuse.
Non, non. On est comme, OK, il n'y a pas de problème. on n'a pas de notre propre armée pour envahir un pays, mais on a la force de défense aussi. Donc, Mais c'est sûr qu'on veut quand même éviter. Puis il y a toujours comme l'espion de Corée du Nord qui rentre au Japon. Puis ça, donc,
OK. Parlons un peu de tu sais, justement, la fierté japonaise. On la sent dans tout ce que tu me discutes. Prendre soin de vos affaires aussi. Je connais quelqu'un qui est allé au Japon puis qui a été fasciné par à quel point les châteaux de l'époque sont... parfait, conservé à la perfection. C'est partout dans le monde qu'on aurait tiré des leçons de ça. Est-ce que c'est un trait culturel ou c'est enseigné, ça, de prendre soin de ses affaires, de la longévité, l'espèce de nationalisme que vous avez, là, les Japonais?
Mais normalement, on prend soin d'un objet. Donc, tu utilises un même objet, puis même si c'est cassé, on essaie de réparer. Justement, le concept qui a commencé à être connu ici, s'appelle Kintsugi. Vous connaissez?
J'ai déjà entendu ça.
Donc, dans le cas de poterie, ben, en fait, il y a un pot qui est cassé. Okay? Donc, ici, on jette, puis on met dans le poubelle bleu. Tu sais. Mais là-bas, au Japon, on met la colle avec le or, une fille d'or.
Okay. Ouais.
Donc là, ben, le marque de réparation, le fissure, était rempli par l'or. Donc, c'est comme encore plus joli, genre.
Je comprends.
Ouais,
OK.
Ouais, ouais,
donc, on prend soin de vieux objets, puis...
OK. Nintendo?
Ouais.
C'est quoi ton rapport à Nintendo comme japonais? Moi, je suis un grand gamer. Je suis fasciné de ça.
GoldenEye.
Comment?
GoldenEye.
GoldenEye, entre autres, mais Mario, toute la patente. Est-ce que pour vous, Nintendo, c'est une grande fierté nationale? Comment c'est perçu par les Japonais?
Mais en fait, c'est comme... je vous donne un feeling. Maintenant, Nintendo, moi, je suis fier de toutes les grosses compagnies ben, qui sont même populaires ici. T'sais, le Nintendo, Sony, puis un peu le Toyota. Ben, c'est pas le même, mais Toyota, une grosse compagnie de voitures, ça se trouve partout, partout. Mm-hmm. Là, je suis très fier d'eux. Mais en fait, quand tu es au Japon, ben, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui sortent du pays. Par exemple, on n'est pas comme... c'est pas comme si tu es né dans un pays pauvre puis tu es obligé de comme, sortir du pays. Mais donc, au Japon, il y a tout ce qu'il faut. Donc, si tu ne sors pas du Japon, mais tu vas pas, tu ne vois pas que le Nintendo est partout, partout.
OK.
Donc, c'est comme si... ici, ça en fait un publicité de notre compagnie, une compagnie spécifique. Il y a un Vidéotron, tu sais.
Ouais.
Puis là, ben, tu sors du pays, puis au Japon, le Vidéotron est partout, partout. C'est. Donc là, ouais. T'es comme, oh, wow, c'est que le Vidéotron. Mais tu sais, le Vidéotron, c'est comme, ah, tu sais, c'est une compagnie d'Internet. Ben, pour nous, c'est comme, c'est normal.
C'est comme nous, quand on arrive dans des, mettons, on voit Johnny Rock qui était en Chine puis qui trouvait des Tim Hortons.
Ouais.
C'est exactement ça.
Hey, une autre affaire dont je veux te parler absolument, parce qu'on a notre, mon ancienne collègue qui est allée au Japon et elle a été fascinée par... des sex shops de plusieurs étages avec des affaires en lien avec le hentai. Okay. Pourquoi la sexualité, disons, pas japonaise, mais avec une connotation japonaise, est, je vais le dire comme je le pense, over the top à ce point-là?
En fait, moi, j'ai jamais été en sex shop. T'sais. Moi, je suis parti quand j'étais petit.
OK.
Mais quand même 22 ans, puis j'avais pas besoin d'y aller trop. Il n'y avait pas de raison. Mais non. En fait, non seulement le sex shop, etc., il y a un concept de otaku. Okay? Donc, otaku, c'est comme nous, on apprend à l'école de persévérer. Okay? Donc, si tu aimes quelque chose, il faut aller tout au bout. Okay? Donc, c'est la même chose pour toutes ces choses. Donc là, si tu es artiste cirque, tu dois aller jusqu'au bout. Okay? Donc là, tu deviens super bon en cirque, etc. Donc, il y a quand même les gens qui sont juste spécialisés qui a, mettons, on peut dire un intérêt très limité, mais tu aimes puis t'aimerais bien aller au bout. Donc là, quelqu'un...
Fait que t'aimes les femmes, fait que pourquoi pas y mettre des tentacules, je comprends.
Exactement, c'est ça.
Je comprends.
Donc même pour les vidéos porn, il y a quelque chose, je pense que je connais pas trop, mais c'est pas ma spécialité.
Ouais, non, je comprends. Ouais. C'est quoi le... Quand tu vois comme japonais, tu sais, des gens qui vont au Japon en voyage... Puis tu dis, ah non, vous allez pas là. C'est quoi le pire scam à éviter au Japon? La trappe touriste ultime. Y en a-tu une à éviter?
Mais surtout, déjà, là, le restaurant qu'ils ont le menu en anglais, mais c'est la trappe touriste. Pour
OK. Moi. Ouais, OK. OK.
Mais il faut, c'est sûr qu'il faut connaître le vrai japonais.
Mmh.
Ouais, pour pouvoir aller là-bas. Mais sinon, je sais pas. C'est comme, il y a plein d'endroits qui sont. Mais surtout, maintenant, il y a tellement de touristes. Donc là, tous les touristes, ils vont au classique. Okay? Donc là, le classique, c'est... En fait, t'as hâte de boire le château, puis là, tu vois juste les touristes chinois. Donc là, évitez d'aller au mainstream. C'est ça, mon conseil.
Okay.
Donc, par exemple...
Sortir des sentiers battus.
Exactement. Donc, un exemple, c'est que à Tokyo, il y a Asakusa. Il y a une ville qui s'appelle Asakusa, qui est comme le temple que tout le monde va. T'sais.
Okay.
Mais Asakusa, c'est très cool, mais il y a beaucoup de magasins touristiques. Mais les gens ne connaissent pas qu'on peut avoir le même sort de temple juste à côté de l'aéroport de Narita.
Okay? Okay.
Donc, il y a une ville de Narita qui ont une promenade remplie de vieux magasins. Puis, c'est plus grand que Asakusa. Puis, tu vas voir les 3 temples différents avec la montagne, etc. etc. Donc, il y a plein d'endroits qui sont comme sous-évalués.
OK.
Donc, par exemple, ça. Donc, moi, je conseille toujours aux touristes, OK, donc, juste une journée avant de quitter au Japon, prends un hôtel juste à côté de l'aéroport de Narita. Parce que à partir de cet hôtel-là, ben, tu peux juste laisser ta valise, même si ton vol est le soir, ben, tu peux juste prendre le navette qui va directement à Narita, la ville de Narita, pour visiter la ville au complet. Puis ensuite, il y a une navette qui va revenir jusqu'à l'hôtel, puis tu prends tes affaires, puis il y a une autre navette qui va jusqu'à l'aéroport.
Ah,
donc, ce genre d'informations, c'est pas très, très connu, en fait. Donc, pour moi, il y a plein de sources d'informations en regardant maintenant sur YouTube, réseaux sociaux. Donc, regardez ces informations-là, puis essayez d'éviter le mainstream.
Pendant que Jean-Francis tripait sur les hentai puis Nintendo. Non, mais moi, ce qui me fait triper de la culture japonaise, c'est beaucoup les chars, les voitures. Oui, est-ce que t'as baigné là-dedans un peu? Est-ce que tu la vois, la culture de
tuning,
de voitures japonaises, quand t'es au Japon?
Je suis pas très Tokyo Drift.
Ouais, non.
Mais pour moi, en fait, quand j'ai quitté le Japon, j'avais juste 22 ans, donc j'avais même pas de permis, etc.
Ah non, est-ce que t'avais pas l'âge encore? C'est quoi l'âge pour avoir un permis au Japon?
20 ans, je crois.
OK. Ouais,
20 ans, OK.
Mais
quand
tu
même.
Peux prendre le coup un peu avant, mais
c'est
ça.
OK.
OK. Ouais. Hey, Ryunosuke, t'es un gars fascinant avec
merci
qui
beaucoup.
Est tellement attachant. Je veux le dire parce que tu as une page. En fait, tu as plusieurs pages. Tu es sur Instagram aussi.
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short.
C'est quoi la meilleure façon de te suivre? Parce que tu partages plein de vidéos qui sont à la fois soit intéressantes ou drôles, tu sais, les deux.
Mais toujours comique.
Oui, c'est ça, c'est toujours comique.
C'est toujours une parodie de deuxième degré. Donc, ceux qui sont en premier degré, ils comprennent rien.
Non, effectivement.
Parce que je suis stupide.
Mais avec nos auditeurs, tu vas être correct. Là. Ils sont habitués à du deux degrés. Fait que la meilleure façon de te suivre sur...
Donc, mon nom, c'est Ryunosuke. C'est R-Y-U-S-T-O-S-T-R-A. Mais si vous regardez Meilleur jongleur japonais de Québec, là, vous allez voir mon site internet qui est portablecircus.com. Mais à partir de là, vous allez simplement trouver mon nom.
Okay.
Et vous allez simplement copier-coller ce nom-là et vous allez trouver mon profil sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube Short.
Tu fais-tu encore des... Parce qu'on s'est connus via les cours de japonais que tu donnais à mon cousin Sam. Tu donnes-tu encore des cours?
Juste avec mes connaissances.
Ah, okay.
Maintenant, c'est très privé.
Puis j'ai vu que récemment, tu étais embauché par... Ça se peut-tu une bibliothèque donner un atelier de calligraphie japonaise?
Oui, exactement.
Je m'en arrachais les cheveux de sa tête d'avoir manqué ça. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont venir?
Donc, vous savez que ce mois-ci, mois de mai, c'est le mois de patrimoine asiatique.
Ah, je savais pas, non?
Ah oui. C'est ça. Donc, ils ont décidé comme ça. Puis,
c'est pour ça qu'on t'a invité, pour célébrer le mois du patrimoine asiatique.
C'est très bien. Donc, le 31 mai, à la base de plein air de Sainte-Foy,
okay.
Avec un organisme qui s'appelle Centre Rire 2000. Centre Rire 2000, c'est un organisme qui aide les immigrants.
Okay.
On va faire un petit événement pour sensibiliser à la culture asiatique.
Okay.
Donc là, moi, je serai là pour faire une mini-performance aussi.
Cool.
Sinon, ce qui habite pas à Québec, mais ce qui habite à Bromont. Je vais présenter mon spectacle solo de 45 minutes le 30 mai.
OK.
C'est mon spectacle de cirque.
T'es solo là-dedans?
Ah oui, c'est ça. J'ai,
cool. Est-ce que tu as des représentations prévues à Québec éventuellement pour...
À Québec, oui. Donc, le 31 juillet, puis le 1er août, il va y avoir un premier festival. Ça s'appelle Marché de Nuit Tuk Tuk. C'est un festival asiatique.
Ici, à Québec?
Oui. Place Jean Béliveau.
Place Jean... le Centre Vidéotron.
En face du Centre Vidéotron.
Wow! C'est quand même cool, ça.
Donc, ça va être 4 jours d'événements. Puis moi, je vais présenter mon spectacle. Je vais donner des ateliers de danse japonaise.
OK.
C'est ça. Puis... C'est ça, il va avoir la nourriture japonaise.
Cool! Ah, c'est ça, je vais aller là.
Ah ouais.
Ça, je vais aller là. Ah, Ryunosuke, encore une fois, un gros merci d'être venu en studio.
Merci
très
beaucoup,
apprécié.
Ouais.
On fait une courte pause, puis je vous invite vraiment à aller suivre Ryunosuke, ça vaut la peine. R-Y-O-N-O-S-U-K-E.
A-Y-U.
A-R-Y-U?
Ouais, Richard, Yannick, Université, Nathalie, Olivier.
S-U-K-E. Ok. Cassez-vous pas en tête. L'extrait sera sur le site de Radio X. Vous allez avoir son nom, puis je mettrai les liens vers ton site.
Ah oui, bonne idée. Ouais. Excellent. Hey, merci, Ryunosuke. Je suis content de t'avoir revu.
À la prochaine.
Yes. On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast. Radio X.